Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brand, Aliette Ovine et Eliott Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Adèle Caglar.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Aujourd'hui encore, nous partons à la découverte de l'économie allemande, une économie fragilisée par les faiblesses de l'industrie et par le ralentissement chinois. Le moteur allemand est à la peine et l'horizon est encore assombri par les menaces de Donald Trump et la perspective d'un Brexit sans accord. À l'heure où la récession guette l'Allemagne, le moment est-il venu de remettre en question le dogme de l'équilibre budgétaire ? La dépense publique doit-elle venir au secours de la croissance ? Le débat a ressurgi outre-Rhin et de plus en plus de voix réclament aujourd'hui des investissements massifs au pays de l'ordolibéralisme. Willkommen sur France Culture, c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Alors l'Allemagne doit-elle creuser son déficit pour relancer la croissance ? C'est la question qui va nous occuper dans l'heure qui vient, en compagnie de Michel Ruimi, économiste, professeur d'économie monétaire à Sciences Po Paris et l'ESCP Europe. Avec nous également en duplex de Bordeaux, Pascal Kaufmann, professeur d'économie internationale et monétaire à l'Université de Bordeaux. À 14h50, on retrouvera Xavier Martinet et son journal de l'Écho.
My view on the question is that we are not in a situation which makes it necessary or wise.
De mon point de vue, nous ne sommes pas dans une situation où il est nécessaire ou sage de nous comporter comme si nous étions en crise. Cela aurait de mauvais effets. Si vous investissez de l'argent quelque part et que le seul effet est d'augmenter les prix, cela n'a pas d'impact sur l'économie. Et une fois de plus, la vraie question, et vous pouvez le voir en termes d'exportation, est que nous avons des problèmes au niveau de l'économie mondiale qui résultent de tensions politiques. Si nous arrivons à résoudre ces tensions, notre croissance à tous sera meilleure. Le ministre des Finances dit qu'on doit investir une fois que l'on se trouve au cœur de la crise. Ce serait, selon lui, du keynésianisme. Je crois qu'il a mal compris Keynes. Il s'agit d'aplanir les cycles conjoncturels. On doit investir en amont afin de ne pas se retrouver coincé dans la crise, car une fois que c'est le cas, essayer d'en sortir coûte beaucoup plus cher.
Michel Ruimi et Pascal Kaufmann, bonjour.
Bonjour, Guten Tag.
Bonjour.
Bonjour, Guten Tag. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre Olaf Scholz, le ministre allemand des Finances, suivi de Fabio De Masi, député du parti de gauche Die Linke. Michel Ruimi, le risque de récession en Allemagne a relancé le débat sur la nécessité ou non d'utiliser le levier budgétaire ?
Alors, dans une certaine mesure, oui, puisque en fait, il y a un ralentissement de l'économie allemande du fait de du ralentissement mondial et de, on va dire, d'une conjoncture beaucoup d'incertitudes au niveau international. Mais donc, ceci a relancé, on va dire, ça s'est traduit par un ralentissement de la croissance et ce qui se traduira aussi par des performances françaises meilleures que l'Allemagne cette année. Et vraisemblablement, on aura peut-être des résultats très médiocres eu égard au passé pour l'Allemagne. Alors, c'est vrai qu'on peut faut-il relancer l'activité économique ? Tant que, mon sentiment est que tant que la récession n'est pas imminente, l'Allemagne ne le fera pas. Donc, bien sûr, elle a, par contre, d'autres contraintes, par ailleurs, avec notamment sa nouvelle génération.
Donc, ça dépend peut-être de l'ampleur de l'inquiétude autour de cette crise à venir, Pascal Kaufmann. Mais ce qu'on peut dire tout de même, c'est que cette question de la relance budgétaire est présente aujourd'hui dans le débat économique, mais aussi au sein de la classe politique, comme on a pu l'entendre dans le son que l'on vient d'écouter.
Oui, tout à fait. Alors, on pourrait presque, si on pouvait plaisanter sur un sujet aussi sérieux, dire que le simple fait qu'ils en discutent est déjà une petite révolution. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on était dans le domaine du tabou. Et donc, je ne plaisante pas. C'est-à-dire que pour eux, ils ont même inventé le concept de Schwarz-Null, qui est complètement intraduisible, qui, en gros, signifie que en matière budgétaire, il faut préférer un espèce de zéro absolu qui sous-tendra donc un équilibre évidemment très fort.
On peut le traduire par le dogme du zéro noir, parce que être dans le vert en allemand se dit être dans le noir, c'est ça ?
C'est ça. Bon.
Quand alors, les économies du coup, sont au vert, oui.
Voilà, ça traduit surtout, à mon sens, donc quelque chose qui n'est pas finalement aussi technique, mais plutôt psychologique. C'est la fascination qu'ils éprouvent par ce besoin d'équilibre, comme si c'était une vertu. Et le simple fait donc que la discussion soit réouverte me semble devoir être signalé. Alors après, je rejoins totalement mon collègue sur le fait que c'est pas parce qu'on en parle que quelque chose se fera. Et on peut penser que l'équilibre, si j'ose dire, au sens politique cette fois du terme, entre les pour et les contre, est encore clairement en faveur du statu quo. Donc l'idée que ça ne bougerait qu'en cas vraiment de crise imminente me paraît juste.
Mais alors ce qui va dans le sens d'une possible évolution sur ce point, c'est le fait que l'Allemagne a aujourd'hui des marges de manœuvre que d'autres pays n'ont pas, Michel Ruemi.
Tout à fait, puisque en excédent budgétaire, sur les cinq dernières années, on arrive à un peu plus de, je crois que c'est 250 ou 280 milliards d'euros. Donc elle a tous les moyens pour relancer l'activité et notamment les problèmes qu'on lui invoque, c'est-à-dire notamment les infrastructures, pas mal de refonte, on va dire, là-dessus. Et c'est un institut de sondage qui a dit que la mise à niveau des infrastructures coûterait à peu près 160 milliards. Donc elle a tous les moyens, on va dire, a priori, pour financer ces infrastructures.
Et pourtant, ce n'est pas la décision qui a été prise, en tout cas, si l'on en croit la présentation du projet de loi de finances pour 2020. Ce qui a été annoncé, Pascal Kaufmann, c'est un budget à l'équilibre sans nouvelles dettes.
Tout à fait. Et avec l'argument que, en gros, ce gouvernement continuera à être aussi rigoureux et attaché à l'équilibre que ses prédécesseurs. Donc le message est vraiment 100% politique. Si vous m'autorisez une sorte de parallèle, il vaut ce qu'il vaut, mais en gros, le gouvernement allemand actuel dit à ses électeurs et même au-delà ce qu'ils ont envie d'entendre. Et on voit bien quand on fait le contraire, donc je pense ici à la crise des réfugiés qu'il y a eu en Allemagne en 2015 et les décisions originales, disons, de Mme Merkel, quand on fait le contraire, on voit bien à quoi on s'expose. Alors là, le gouvernement ne prend pas de risque, parce qu'il faut bien voir que l'attachement donc à l'équilibre budgétaire, il est très répandu. Le gouvernement ne veut pas aller contre ça. Mais c'est pas ça, c'est pas de l'économie.
Justement, on peut se demander effectivement comment expliquer ce refus de la coalition politique au pouvoir en Allemagne d'utiliser ce levier budgétaire. Est-ce qu'il faut y voir aussi une volonté de respecter les critères de Maastricht, Michel Ruemi, en l'occurrence, la dette publique allemande va repasser sous les 60% du PIB alors qu'elle a pu atteindre 80% au moment de la crise de 2008.
Ah ben oui, l'Allemagne, c'est le meilleur élève de la classe, on va dire cela, mais en même temps, c'est elle qui a instauré ces règles, qui se base sur l'oslo-libéralisme. Donc, c'est normal, d'une certaine manière, qu'elle enregistre les meilleurs résultats. C'est vrai qu'elle a d'excellents résultats budgétaires en termes de finances publiques, mais malgré tout, elle a un modèle économique qui est tourné vers l'extérieur et pas vers l'intérieur, pour faire simple, je dis bien, et ce qui risque de poser à terme, puisque l'extérieur, justement, a des problèmes de croissance.
Mais la décision est peut-être d'autant plus politique, comme vous le disiez, Pascal Kaufmann, donc cette décision de ne pas creuser le déficit, qu'aujourd'hui, à l'heure des taux négatifs, l'Allemagne gagnerait de l'argent en empruntant.
C'est-à-dire qu'on pourrait dire, même si le tableau évidemment est un peu complexe, mais disons quand même que le contexte conjoncturel effectivement en matière de taux d'intérêt n'a pratiquement jamais été dans l'histoire économique aussi favorable à l'endettement. Et alors évidemment, il s'agit d'un bon endettement, c'est-à-dire il suffit pas de dire je m'endette, il faut imaginer ce qu'on peut faire avec. Et dans le cas allemand, ça a été déjà dit plusieurs fois, le simple dossier des infrastructures répond à cette question. Ils ont du travail de ce côté-là, ils ont vraiment de quoi faire. Donc effectivement, ne rien faire. Déjà, j'ai envie de dire, dans un contexte plus ordinaire, ça aurait fait matière à débat. Dans le contexte de taux quasiment nul, c'est encore plus fascinant de voir qu'il s'y refuse.
Et puis, l'Allemagne a déjà eu recours à la relance budgétaire, notamment dans les années 2000, à un moment où elle cherchait à sortir de la plus grave crise économique et financière qu'elle ait connue depuis 1945, Michel Roux.
Oui, tout à fait. Je rebondirai avec ce qu'a dit Pascal. C'est le fait, en même temps, aussi que la Constitution octroie, on va dire, donne la possibilité au gouvernement de pouvoir s'endetter à 0,35% du PIB, ce qui ferait qu'elle pourrait s'endetter à 10 milliards d'euros. Un taux quasi nul, donc on peut dire d'une certaine manière que ce n'est pas, elle ne consommera pas son épargne d'une certaine manière. Elle pourrait, alors c'est là aussi, ça devient encore un peu plus embarrassant de pouvoir, on va dire, ne refuser d'une certaine manière d'utiliser cette cagnotte pour pouvoir relancer l'activité économique. Alors sur en 2000, bien sûr, elle a, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'autant dans les années 90, l'Allemagne était le plus mauvais élève de l'Europe, puisque
l'homme malade de l'Europe.
Exactement, du fait de la réunification notamment, il y a eu pas mal de choses. Et elle a repris en fait son destin en main et elle a passé, elle a redonné une nouvelle vigueur. Mais c'est cela où je veux bien, on va dire, bien comprendre le problème, c'est qu'on remet pas en cause le modèle social, l'économie sociale de marché qui existe toujours, mais c'était une réponse à apporter à, on va dire, l'environnement international qui a changé. Et donc, elle a mis en place des mesures, donc les lois Hartz, avec aussi en même temps les allocations chômage, etc., etc. Et ce qui fait que c'est une réponse.
Les lois Hartz, donc une transformation du marché de l'emploi, mais il y a aussi eu des investissements publics massifs dans la modernisation des infrastructures de transport, notamment dans les technologies de pointe au début des années 2000. L'Allemagne peut avoir recours à la relance budgétaire quand c'est nécessaire, Pascal Kaufmann.
Alors, oui, j'ai envie de dire oui, bien sûr, c'est avéré. Mais il y a quand même une réticence profonde à le faire. C'est un pays qui est, on peut pas dire anti-keynésien parce qu'ils sont pas caricaturaux, mais qui est rétif à ce type de démarche. Et alors, d'abord, pour aller dans votre sens, tout ce que vous avez dit effectivement rappelle un passé où ils l'ont fait. Et à la fin des années 2000, donc dans la grande récession, ils ont participé à un mouvement de relance qui en fait était planétaire à l'époque. Il est plus simple de donner dans les années 2010 la toute petite liste des États qui n'ont pas joué ce jeu. Donc toute l'Union européenne a relancé sauf la Pologne, les États-Unis, le Canada, la Chine, tout ce qui compte a relancé. L'Allemagne donc aussi. Alors c'est amusant de regarder cet épisode parce que on retrouve une idée qu'on a émise tout à l'heure. À l'époque, il est évident qu'il fallait faire quelque chose parce que la crise de 2008-2009, c'est une crise exceptionnelle. C'est une crise presque centenaire. Bon, et ensuite, non seulement il fallait faire quelque chose, mais la profondeur de la récession et le fait que les voisins agissent fait qu'ils pouvaient difficilement faire cavalier seul. Alors ils l'ont fait. Sauf qu'au bout de 2 ans, ils ont eu, excusez-moi de présenter les choses comme ça, un prétexte en or pour arrêter. Au bout de 2 ans, alors d'abord on avait vaincu la récession, mais la croissance était quand même encore très faible. Mais surtout, on a eu la crise grecque. C'est-à-dire le fait que ce pays s'est trouvé, lui, dans une vraie crise de dépenses publiques, parce qu'ils avaient effectivement mal géré leur affaire. Et alors l'Allemagne, à ce moment-là, a appuyé des 2 pieds sur le frein. Donc vous voyez, on a bien eu relance, mais une relance qui a été beaucoup trop courte, qui a été presque caricaturale, alors qu'il aurait fallu la faire durer. Quand je pense que nos amis américains qui ont relancé, donc à l'époque, de la même manière, avec, si je puis me permettre, une administration normale, ils ont relancé à l'époque et ils ont fait durer cette relance plusieurs années, tout en débattant entre eux de savoir si c'était assez. Nous, on a relancé 2 ans et l'Allemagne a appuyé sur les freins, et évidemment, tout le monde a freiné. Alors la relance à l'allemande.
Pardon, je voulais faire intervenir Michel Rumi sur cette relance très courte en Allemagne.
Oui, et puis surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec dans ces années 2000, elle est en décalage par rapport aux autres économies européennes. Donc, elle a reformé, restructuré un peu son économie. Ce qui fait que, du coup, c'est une recherche de la compétitivité des entreprises, donc en même temps basée sur les exportations. Donc, et comme les autres pays étaient plutôt consommateurs, donc on a acheté des produits allemands. Donc, ça a participé à, on va dire, redresser l'économie allemande. Et du coup, en même temps, ça lui a permis, à la fin, après la crise des subprimes et la crise des dettes européennes, de pouvoir être, on va dire, sortir avec des excédents qui lui ont permis de serrer les boulons pour les autres.
Alors on a parlé de ce débat qui surgit à la fois dans des cercles d'économistes, à la fois dans la classe politique, et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est désormais le patronat allemand qui se fait l'apôtre d'une politique de relance en cause la faiblesse des investissements dans les infrastructures.
Deutschland braucht mehr Tempo bei der digitalen Agenda.
L'Allemagne a besoin de mettre plus d'énergie dans l'agenda digital. La couverture numérique dans l'espace national est clairement lacunaire. C'est un problème. Presque 70% des sièges des industries se trouvent sur le sol allemand. L'Allemagne est à la 15e place sur 31 nations en ce qui concerne la rapidité d'Internet en Europe, derrière la Roumanie, la Bulgarie et l'Espagne. La vitesse d'Internet est en moyenne de 15 mégabits par seconde. C'est bien trop peu. Nous voulons contribuer à la réflexion sur la digitalisation en apportant le point de vue de l'industrie et contribuer ainsi à la mise à jour de l'agenda politique.
Joachim Lang, le président de la Fédération allemande de l'industrie, le BDI. Il y a, Pascal Kaufmann, un manque d'investissement en Allemagne, notamment dans les infrastructures numériques.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça n'a aussi paradoxal que ça puisse paraître, ça n'était pas une priorité pour eux. D'ailleurs, elle est encore plus caricaturale dans le fond dans les infrastructures de transport, parce qu'un pays qui n'a pas ses autoroutes, etc., comme priorité, ça fait, excusez-moi, gentiment tiers-monde. Et eux, en matière numérique, mais ils ont fait un peu la même chose. Et c'est fascinant. Et le pourquoi est qu'effectivement, ils répugnent à aller dans le sens d'un investissement public, alors que ce type d'investissement ne se fait jamais tout seul. L'infrastructure, par nature, c'est un bien collectif. Ça ne vous concerne pas, vous ou moi, ça concerne une collectivité, un ensemble. Donc ça suppose un financement qui soit lui aussi collectif. Donc rester les bras croisés à attendre qu'il se passe quelque chose, c'est rarement la bonne chose à faire. Et l'Allemagne est étonnante parce qu'effectivement, sur ces questions-là, elle apparaît comme en retrait. C'est-à-dire l'Allemagne qu'on encense, pour de bonnes raisons, hein, sur certains points, mériterait d'être finalement très critiquée sur d'autres. Le tableau n'est pas aussi homogène que certains le laissent entendre.
Un manque d'investissement sur les infrastructures, sur de nouvelles infrastructures, mais aussi sur des infrastructures existantes qui sont déjà particulièrement vieillissantes, Michel Rumi.
Oui, tout à fait, puisque on prend le secteur automobile, de la construction automobile. Son objectif, on va dire, c'est plutôt l'économie allemande est une économie de l'ancienne économie. Et au niveau des voitures, aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que de plus en plus de voitures électriques sont vendues, notamment avec un principal concurrent qui est la Chine. Et l'économie allemande se débat avec les problèmes de Volkswagen et du diesel et des pots catalytiques, tout ce qui va gérer. Et elle n'investit pas encore assez suffisamment, par exemple, dans le secteur des batteries électriques. Mais les infrastructures, partout, et c'est ce qui pose un type ce problème, parce qu'en fait, on va le retrouver, un investissement, on n'a pas un retour sur investissement à très court terme, ça risque de rentrer peut-être que demain l'Allemagne sera un parent pauvre de l'Europe.
Alors en l'occurrence, pour ce qui est de la transformation de l'industrie allemande dans le but de répondre aux exigences climatiques, on parle de la nécessité d'un investissement de 50 milliards d'euros, et Berlin aurait trouvé un stratagème pour emprunter sans que cette dette soit comptabilisée dans le budget fédéral, Pascal Kaufmann. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce budget parallèle qui déplaît évidemment fortement à certains parlementaires conservateurs de la CDU?
Mais en fait, ce qu'il faut comprendre à mon sens, c'est parce que j'attends plus de précision là-dessus, mais ce qu'on croit voir ici, c'est tout simplement l'idée de ces démarches d'ingénierie financière, finalement, qui consiste à déguiser une démarche en une autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans la mesure où la population est rétive à l'endettement, à la dépense, mais surtout à l'endettement qui l'accompagne. Et donc, elle se félicite que les Allemands soient revenus à 60% d'endettement, alors que c'était certainement pas la priorité des 10 dernières années. Eh bien, un gouvernement peut tenter de faire quelque chose en mettant en place des budgets. Alors, nous, vous souvenez, on a fait ça en jouant, par exemple, sur nos entreprises publiques à certains moments, ou en jouant sur des entités ad hoc que l'on créé pour amortir la dette sociale. Oui, on transfère la dette de la protection sociale vers le budget et vice-versa. C'est ce genre de manipulation qui est à l'œuvre. Mais là encore, si je puis dire, c'est pas de l'économie, c'est de la finance et de la politique, c'est-à-dire de l'affichage.
Michel Rumi.
J'adhère totalement à ce discours dans la mesure où c'est vraiment de l'affichage, puisque on utilise des techniques financières qui ont mené, quand elles sont menées de façon outrancière à certaines crises financières. L'idée qu'aujourd'hui, c'est que on est dans un affichage politique, on ne veut pas apporter un déficit budgétaire ou un accroissement des finances publiques, donc on trouve des arguments ou des structures ad hoc qui font que on allège on va dire les dettes ou on les répartit ailleurs. Ce qui veut dire que malgré tout, l'État allemand est quand même assez endetté. La grande problématique, c'est que quand tout va bien, ça se passe bien, et donc ça, on peut mener à supposer que nous avons que l'Allemagne enregistre des mauvais résultats parce que l'avenir est quand même un peu grisâtre. On risque d'avoir de ces petits problèmes et c'est ça qui peut se poser comme retour sur investissement, parce qu'après il faudra on va dire réalimenter ces fonds.
Et ce qui est intéressant, c'est que même le FMI pousse aujourd'hui, donc le Fonds monétaire international, pousse aujourd'hui l'Allemagne à creuser les déficits. C'est tout de même assez étonnant, Pascal Kaufmann.
Ben, pas si étonnant que ça. À nouveau, j'ai envie de dire, on voit là la différence entre une approche d'économiste, j'ai envie de dire, assez pragmatique, même si le FMI, on peut discuter parfois de son fond idéologique, mais les gens du FMI sont d'abord des experts, et ils n'ont pas d'électorat. Bon. Et effectivement, ils peuvent appeler un chat un chat. Et alors, c'est assez amusant de voir que l'Allemagne, qui était traditionnellement un très bon élève, on disait en Europe, mais au-delà, l'Allemagne dans le monde, c'est une référence, on va pas le nier. C'est amusant de les voir ici en porte-à-faux avec le FMI lui-même, qui lui se dit, le FMI se dit simplement, je vois la croissance mondiale en berne, ça a été dit plusieurs fois, notamment par Michel Rumi, la croissance mondiale des tas d'indicateurs sur le commerce sont en berne, donc le FMI lui voit ça d'un point de vue global et se dit, donc il faudrait chercher, comme on dit, d'autres moteurs de croissance, d'autres relais de croissance, et il voit ces grands pays, l'Allemagne n'est pas le seul, mais c'est quand même un des plus grands, qui dispose de marge et qui ne fait rien, et donc forcément, au bout d'un moment, il dit, mais là, il y aurait quelque chose à faire. Mmh. Le paradoxe n'est vraiment que tout à fait apparent, le FMI est dans son rôle.
Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, Michel Rumi, c'est que ce manque d'investissement public en Allemagne a aussi des conséquences sur l'investissement privé.
Tout à fait, parce que dans une certaine mesure, généralement, quand l'investissement privé ne se fait pas, c'est l'investissement public qui le fait. Et donc là, de par les lois Hartz notamment, on a réduit un peu les salaires, donc ça a impacté la consommation, donc en même temps, l'épargne. Mais là, on s'aperçoit que aujourd'hui, l'Allemagne fait face à des problèmes, donc notamment de vieillissement démographique, des problèmes de loyer, de problèmes d'inégalité, etc., etc. Et il convient malgré tout de pouvoir relancer. Et ça pose ce type de problème parce que sur l'investissement public porte surtout sur des infrastructures que seul, on va dire d'une certaine manière, l'État peut faire. Et si l'État ne veut pas, on risque d'avoir une dégénérescence de tout l'appareil productif allemand, qui va avoir des conséquences beaucoup plus tard.
Le SPD, le Parti Social-Démocrate, a publié un rapport en 2011 qui dénonçait un système éducatif sous-financé et des collectivités territoriales, je cite, à la limite de leur capacité d'action. L'éducation et les collectivités sont les grands abandonnés de la politique économique actuelle en Allemagne, Pascal Kaufmann.
Disons qu'ils en font partie. Effectivement, ils sont dans la liste des domaines où l'État sous-investit, n'investit pas assez. C'est vrai que l'Allemagne étant un pays à démographie régressive, ils peuvent pendant un certain temps faire illusion. Quand vous avez, comme en France, de plus en plus d'élèves par classe, parce que la démographie était jusqu'à une époque récente quand même assez dynamique, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Et quand la démographie va en sens inverse, vous pouvez pendant un temps faire semblant de ne rien faire, vous n'allez pas créer de goulot d'étranglement. Mais à terme, c'est une politique qui est assez inconséquente. Alors au SPD, on entend des voix qui s'élèvent pour critiquer ça depuis déjà un certain temps. Disons que ça peut se comprendre, puisque le SPD, c'est la gauche. Donc on attend effectivement éventuellement que c'est de ce côté-là de l'échiquier politique que ça se manifeste. Après, il faut bien voir que même le SPD n'est pas unanime sur cette question-là.
Bon, on voit Olaf Scholz, par exemple, le ministre des Finances, exactement, qui appartient au SPD. Enfin, en l'occurrence, exactement, à la droite du SPD, mais tout de même. Mmh.
Tout à fait. Et lui a bien dit, donc il a envie. Enfin, c'est d'ailleurs amusant, Scholz lui aussi, à lui tout seul, je trouve, il est intéressant sur le plan politique, parce qu'on a vraiment l'impression que son premier souci, c'est de faire aussi bien que Schäuble, si je peux dire, qui était son prédécesseur, le fameux Wolfgang Schäuble, le ministre historique des Finances de l'Allemagne pendant toute la crise, etc.
Qui est désormais le président du Bundestag.
Qui est le président du Bundestag en pré-retraite. Est-ce que Singer, son prédécesseur, c'est vraiment une marque? Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez étrange. Et alors, au sein du SPD, il est lui-même du coup contesté, parce qu'il incarne effectivement une espèce de conservatisme de centre-gauche qui détonne avec des positions beaucoup plus progressistes par ailleurs.
On se souvient effectivement de Schäuble qui défendait ce fameux Schwarz-Null, le dogme du zéro noir dont on parlait au début de l'émission, hein, Michel.
C'est ça qui est important. Important, on va dire, c'est que quel que soit l'environnement, on garde la ligne du parti en quelque sorte, et ce qui est quoi qu'il advienne, on restera, et on, parce que je pense que il y aura peut-être un problème qui se posera au niveau politique, c'est de se dire je veux pas être le premier homme politique à faire du déficit de façon un peu grand, et donc du coup de ne pas être celui-là. Et rien que simplement sur la formation, il y a un problème. En fait, ce qui se pose, c'est qu'il y a un vieillissement de la population, et en fait certaines estimations estiment. Donc, on suggérait qu'il fallait apporter près de 260 000, migrants par an pendant 10 ans pour compenser ce manque de main-d'œuvre et donc de formation, etc. Donc, après, il y a un autre problème qui vient, c'est la cohésion sociale à gérer.
Et alors, ce délaissement, ce sous-investissement dont on a parlé, semble céder le terrain à l'extrême droite.
L'électorat du SPD fond comme neige au soleil, et ça aboutit à un consensus politique, notamment de politique économique, qui a des conséquences sur le terrain. Il y a un néologisme en allemand que je trouve intéressant, c'est sich kaputt sparen, c'est-à-dire se détruire par l'économie, se détruire par l'austérité. De fait, on se rend compte que les services publics dans de vastes régions, y compris jusqu'à Berlin même, je l'ai vécu moi-même avec des structures déficientes à Berlin pour accueillir les gens, l'austérité détruit parce que l'austérité aboutit au retrait de l'État, et on se rend compte que des missions de service public sont de fait accaparées par ceux qui sont disponibles et qui sont volontaires pour le faire, c'est-à-dire une extrême droite qui, soucieuse non seulement de réinformer, comme on dit sur Internet, veut également recoloniser les territoires en installant des fermes. Donc c'est cette vieille idéologie du Blut und Boden, du sang et du sol, qui se manifeste par le réinvestissement de villages entiers par l'extrême droite qui, de fait, se substitue à l'État.
Joanne Chapoutot, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Il était au micro d'Hervé Gardette sur France Culture. Une réaction à ces propos, Pascal Kaufmann, ce retrait de l'État bénéficie à l'extrême droite et en l'occurrence à l'AFD?
Mais ça vous rappelle rien. On a traversé le Rhin pour des raisons donc de circonstances, c'est très intéressant. Si on revient de ce côté-ci, je ne sais pas, mais on pourrait faire un copier-coller là avec quelques toutes petites nuances et on aurait le tableau de la France de ce qu'on a pu voir dans les deux ou trois dernières années. Il est clair que quand vous laissez en déshérence, donc pour repenser au Blutenboden, donc quand vous laissez en déshérence effectivement des populations donc rurales qui sont dans des zones qui sont mal desservies, en plus vous leur dites prenez pas votre voiture, sous-entendu mais je prends quoi, vous les montrez du doigt parce que les voitures en question sont des diesels polluants, ben oui mais je fais comment, au bout d'un moment, je ne trouve pas la démarche évidemment très intelligente, mais au bout d'un moment cet électorat va se jeter dans les bras de celui qui a le discours finalement le plus virulent et qui éventuellement localement peut faire quelque chose que l'État ne fait plus. Donc c'est, on pourrait presque dire que c'est hélas pas original, hein. C'est allemand, mais ce syndrome-là, il existe ailleurs.
Sachant qu'on peut tout de même préciser que la marge de manœuvre en France n'est pas la même que la marge de manœuvre en Allemagne, puisque la dette française atteint presque 100% du PIB, là où l'Allemagne est proche de 60%. Michel Rouimi.
Oui, j'adhère à l'analyse qui vient d'être faite, mais ce n'est pas uniquement l'Allemagne, la France, c'est l'ensemble, on va dire, la montée d'un certain des populismes, avec notamment, on va dire, une gestion de la mondialisation qui pose des problèmes. Alors c'est pas typiquement, ce que je veux dire, les phénomènes qu'on vient de décrire, c'est pas typiquement allemand ou typiquement français, c'est de façon générale à travers le monde. La difficulté, c'est qu'au-delà de ça, nous avons au sein de ces aires géographiques abandonnées aussi l'Allemagne de l'Ouest qui est totalement différente de l'Allemagne de l'Est, avec des différences de vigueur économique qui vient encore alourdir ce constat.
Solange ich jagen kann nach Fragen und die Antworten nichts sagen. Solange ich ganz für mich alleine durch die Sumpfgebiete eile. Ist alles schön verwirrt und fremd und ich bin ganz in meinem Element. Solange ich hohn lachen kann über Zuversichtlichkeiten. Solange es genug Idioten gibt, die sich gerne mit mir streiten. Misstraue ich jedem zufälligen Glück, denn ich hab Angst vor dem Menschen an sich. Ich hab keinen Zweifel dran, dass diese Welt mich so bescheißt, wie sie beschissen ist. Also wozu sich beteiligen an diesem Kinderspielplatz Klettergerüst? Ich misstraue jedem zufälligen Glück und ich hab Angst vor dem Menschen an sich.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
On écoutait Berlin du groupe MDK, un titre issu d'une excellente compilation sortie en 2009 à l'occasion des 20 ans de la chute du mur et qui regroupe le meilleur de la scène allemande entre 1961 et 1989. Et nous poursuivons notre discussion sur le dogme de l'équilibre budgétaire en Allemagne en compagnie des économistes Michel Rouimi et Pascal Kaufmann. Alors pour bien comprendre les réticences de Berlin à l'égard du déficit budgétaire, il faut revenir un siècle en arrière.
En 1923, c'est l'inflation, la terrible inflation que les Français connaissent, au moins ceux qui sont collectionneurs de timbres. Nous avons des timbres d'un milliard de marques, mais peut-être plus intéressantes sont ses conséquences. Cette inflation totale, va ruiner et prolétariser les classes moyennes en particulier, tout en permettant des enrichissements fabuleux du côté de certains grands industriels. Et cette prolétarisation des classes moyennes va avoir des conséquences politiques. J'ai toujours été frappé qu'un homme comme Eichmann, qui était un représentant de commerce, est tout à fait symbolique, caractéristique de ces couches-là. Ces couches ont perdu leur standing, leur situation sociale, et se sont données au nazisme dans l'espoir que le nazisme leur redonnerait leur dignité.
L'historien Gilbert Badia dans les Lundis de l'Histoire sur France Culture. Alors avant de parler des conséquences politiques de la crise, quelles sont d'abord, Pascal Kaufmann, les origines de cette hyperinflation de 1923 ?
Alors, il faut savoir que l'inflation d'abord et l'hyperinflation ensuite, contrairement à ce qu'on croit, parce que c'est intuitif, mais c'est faussement intuitif, ça vient pas de hausse des prix sectorielles, c'est pas parce que le prix du pain augmente, puis celui de la voiture, et ensuite celui des paires de chaussures. Non, c'est un phénomène macroscopique, hein, donc qui se développe à l'échelle macroéconomique, et qui vient en fait de la création de monnaie, c'est-à-dire en gros, là pour le coup c'est assez simple, trop de monnaie par rapport aux besoins de la population, ça va dégénérer en l'inflation. Et alors, en fait, parce que tout le monde voudra dépenser cette monnaie en même temps, ce qui pousse tous les prix à la hausse. Alors, une inflation en temps normal, ben, ça peut rester tout à fait modéré, ça se contrôle. On montre même, on va peut-être pas entrer dans les détails, qu'une inflation assez faible, c'est plutôt en soi une bonne chose qu'une mauvaise chose, mais une inflation faible. Et alors, l'hyperinflation, elle signifie donc, si on me suit, entre guillemets, c'est que ça signifie qu'il y a eu énormément de création monétaire de façon inappropriée. Et dans le cas de l'Allemagne de Weimar, la raison à cette création monétaire, c'est simplement qu'on a un État qui est pratiquement au sortir de la guerre, qui est un État en plus endetté vis-à-vis des puissances qui ont gagné le conflit, le traité de Versailles, etc. Et donc un pays qui est en fait impécunieux et qui va utiliser cette facilité pour financer sa dépense. Alors on voit bien que ça va avoir deux conséquences, si maintenant on prend beaucoup de recul, deux conséquences sur l'Allemagne dans sa psychologie collective, j'ai envie de dire. C'est bien sûr la hantise de l'inflation, bon ça paraît assez élémentaire. Et de l'autre côté, ça va créer cette hantise de l'endettement. C'est-à-dire c'est parce que il fallait couvrir de la dépense publique et qu'on l'a fait comme ça, qu'on s'est mis dans cette situation absolument catastrophique. Donc c'est un épisode qu'on ne saurait effectivement sous-estimer dans l'histoire allemande et dans ses effets sur la population allemande.
Michel Rumi, c'est la Première Guerre mondiale, notamment financée par la planche à billets en Allemagne, peut-être plus en Allemagne que dans les autres pays européens, qui a entraîné cette hyperinflation et les conséquences
C'est les dommages que la France demande, c'est 132 milliards de marques or qui sont demandés, c'est quelque chose d'incommensurable par rapport au pays, mais la France voulait vraiment faire écraser, on va dire, l'Allemagne. Et en fait, c'est cette situation qu'on retrouve dans les années 20, c'est vraiment ce qu'on appelle un enfant de la défaite, d'une certaine manière. Et pour bien signifier un peu cette hyperinflation, en 1923, l'inflation, on va appeler ça comme ça, était de 16 millions de pourcents. Alors 16 millions de pourcents, on s'en rend pas compte. Mais supposez qu'on ramène, grosso modo, à aujourd'hui, si le 1er janvier, vous achetez une baguette à 1 euro, le 31 décembre, vous la payez 160 000 euros. Donc vous voyez ce que ça peut donner. Et donc, bien sûr, ça fait cher la baguette et on a intérêt à bien déguster. Mais c'est bien pour montrer également l'influence, d'une certaine manière, de la planche à billets, qui a été systématiquement le recours facile pour contrer les inconvénients.
Et selon vous, Michel Rumi, cette crise et les ravages qu'elle a entraînés, les famines notamment, ont laissé des traces durables en Allemagne, comme le disait Pascal Kaufmann ?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est ceux qui ont vécu la République de Weimar, on va les retrouver quelques années plus tard, pour la plus grande part, dans les années 45, au moment de la reconstruction, et c'est là où on commence à faire l'économie sociale de marché, qui est avec un peu l'ordolibéralisme, et en fait, on va avoir des grandes rigueurs budgétaires, et surtout, on va demander à la Banque centrale d'Allemagne, la Deutsche Bundesbank, de garantir, on va dire, la stabilité interne et externe du Deutsche Mark, et ça veut dire qu'on lutte contre l'inflation de façon importante.
Alors, avant d'en venir, effectivement, à l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qu'il faut expliquer peut-être, Pascal Kaufmann, c'est que c'est dans la décennie qui suit cette crise de 1923 qu'apparaît le courant de pensée ordolibéral autour de l'économiste Walter Eucken. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur l'ordolibéralisme qui fait finalement de la lutte contre l'inflation et de la stabilité monétaire des valeurs absolument cardinales, Pascal Kaufmann. Oh.
Oui, tout à fait. Alors, sur le plan étymologique, l'ordolibéralisme, je pense que c'est facile à comprendre. Le libéralisme est bien là, c'est-à-dire qu'il est clair que l'Allemagne n'est jamais apparue comme autre chose qu'un pays, j'ai envie de dire occidental sur le plan économique. Il n'y a pas une différence majeure entre lui, la France, même le Royaume-Uni ou les États-Unis. Ordo, on retrouve cette idée donc que vous évoquez dans votre question, qu'il y a effectivement malgré tout des règles. C'est-à-dire que le libéralisme à l'allemande, l'ordolibéralisme, c'est pas certainement pas le néolibéralisme débridé de certains, encore moins l'ultra. Non, c'est un libéralisme qu'on pourrait qualifier d'encadré. Mais alors il n'est pas encadré par un État très fort qui serait très interventionniste. Non, il est encadré effectivement par la règle. Et l'Allemagne, si je puis dire, c'est aussi un pays de juristes. Bon, et alors la règle, vous en citiez deux, il y en a d'autres, mais celles-là sont majeures, effectivement, c'est que, notamment, donc on lutte contre l'inflation, donc ça fait partie de ce que, comme disait Michel Wimi, la Banque Centrale doit faire, elle est là pour ça, principalement pour ça, pour ne pas dire exclusivement pour ça, et donc, pas d'inflation. Et puis, dans l'ordolibéralisme, dans les différentes règles, il y a effectivement l'idée que le cadre dans lequel l'économie s'inscrit doit être stable et doit être fait d'équilibre, notamment, donc évidemment, l'équilibre budgétaire. Chez les ordolibéralistes, il n'est pas écrit qu'il y a Schwarz-Null, mais en tout cas, l'idée d'équilibre budgétaire est bien présente. Et de la même manière, on ne doit pas laisser la monnaie trop se déprécier, ça a été dit, on ne doit pas laisser creuser les déficits externes s'il pouvait y en avoir. Donc voilà, ce sont ces règles-là qui doivent prévaloir.
Donc ce sont ces idées qui émergent dans les années 30, mais qui sont véritablement adoptées, mises en œuvre après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne.
C'est ça. C'est-à-dire que dans l'intervalle, je crois que tout le monde connaît malheureusement l'Allemagne de la fin des années 20 et du début des années 30 et 40, mais après la guerre, si j'ose dire un peu cyniquement, comme tout est à refaire en Allemagne, eh bien ils vont repartir sur des bases qu'ils voudront leurs, d'abord, dans la mesure du possible, et saines, et donc ils vont s'approprier ce corpus de pensée et pouvoir le mettre en musique. Et leurs premiers chanceliers seront des après-guerre, donc seront effectivement des hommes politiques qui se voudront de cet ordolibéralisme et qui donc en seront les praticiens. Comme ça aura un succès indéniable, évidemment on comprend bien que ça va s'ancrer dans les idées collectives partagées par le peuple allemand.
Et alors la pensée ordolibérale a ensuite été dominante dans la construction européenne, notamment lors de la signature du traité de Maastricht de 1992, qui fonde donc l'union économique et monétaire. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître ces règles qu'on connaît bien, le fait que les États membres s'engagent à ne pas s'endetter au-delà de 60% du PIB et à maintenir leur déficit à moins de 3% du PIB, Michel Roux.
Oui. Même plus, je crois que l'idée, c'est que cette volonté, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Allemagne, après Seconde Guerre mondiale, la volonté des pays européens, c'est d'intégrer l'Allemagne. Et on va voir à partir des années 70, 80 et 90, la montée en puissance de l'Allemagne qui va imposer en fait sa vision, c'est-à-dire l'ordolibéralisme, à travers les règles de finances publiques. Et ce qu'il faut bien voir, c'est pas un déficit qui est autorisé. C'est comme si on vous demandait, si votre banque vous dit, je vous autorise à 3% de débit. Non, c'est l'équilibre. Et s'il y a des circonstances exceptionnelles, on vous autorise un 3% de déficit. Et on voit bien la logique, c'est toujours au niveau microéconomique une liberté concurrentielle des entreprises, au niveau macroéconomique une stabilité et un équilibre des finances publiques. Et c'est ce qui est très important, c'est ce qui va concourir, à la différence des États-Unis qui, eux, ont été traumatisés par la crise de 29 avec les longues files de chômage. Et donc pour eux, c'est la croissance et l'emploi. On a en Europe, faut bien se rendre compte aussi que pendant les années 90, l'Allemagne était, on va dire, le leader économique de l'Europe, et donc qui a imposé également progressivement. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle a imposé progressivement ses idées et que les autres ont laissé faire d'une certaine manière. Et donc, on a une Europe allemande d'une certaine manière.
Pascal Kaufmann, l'Allemagne a réussi à imposer cette pensée, cette vision ordolibérale.
Alors tout à fait, et on peut même, moi je suis évidemment absolument d'accord avec ça, je crois que ça correspond à la réalité, on peut même rentrer si on veut un peu dans la mécanique qui a permis ça. Alors il y a la mécanique, comme disait Michel Wimi, la mécanique entre guillemets de leadership, c'est-à-dire l'Allemagne c'était quand même la puissance, même avant la réunification, l'Allemagne c'était la puissance économique, c'était la success story de l'après-guerre, le miracle allemand, à employer ce terme, il n'était pas à galvauder finalement. Et d'un autre côté, il y a un deuxième ressort. Alors la réunification va renforcer bien sûr le poids de l'Allemagne, mais il y a aussi un deuxième ressort qui a joué un rôle. C'est que Dans, notamment pour ce qui est de l'Europe monétaire, l'Allemagne n'était pas demandeuse. C'est-à-dire que quand on va vers l'euro, hein, ce qui deviendra l'euro, et vous avez un certain nombre de pays qui sont très moteurs en disant c'est une bonne idée, la France en fait partie, elle n'est pas le seul, mais elle est quand même un des porteurs du projet. Et de l'autre côté, vous avez des pays qui sont plus frileux, pour des raisons diverses et variées, mais l'Allemagne en fait partie. En fait, l'Allemagne en fait partie parce qu'elle elle pense qu'elle gérera mieux sa monnaie tout seul qu'en la mettant dans un pot commun. Entre nous, ce n'est pas une idée stupide.
Donc l'Allemagne accepte l'euro en échange d'une plus grande discipline budgétaire dans l'Union européenne.
Exactement. Elle va, en fait, dans cette position, elle va dire, écoutez, en gros, moi, si vous me voulez à l'intérieur, c'est à mes conditions, en schématisant. Donc voilà, si on fait l'euro, il faut le faire comme ci, comme ci et comme ça. Et effectivement, c'est de cette façon-là que ça va se faire.
Voilà. Michel Rumi.
Ce que je veux dire, c'est que je vais rien compléter, mais l'analyse est fine. Eh bien, c'est que, à part les transferts financiers entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne ne veut absolument pas de transferts financiers entre pays de la zone euro. Et ce qui va aussi gouverner, dans le sens où, si je ne peux pas faire de transferts financiers entre pays, si la banque centrale est indépendante, il n'y a qu'une seule solution, que les pays soient rigoureux et pense comme nous en termes de finances publiques, c'est-à-dire la stabilité financière des finances publiques, c'est-à-dire un équilibre pour pouvoir dégager des marges de compétitivité et donc du coup d'avoir une Europe forte, un euro fort et voilà, etc., etc.
Et alors en pleine crise de la zone euro, le 30 janvier 2012, les États membres ont adopté un nouveau traité afin de renforcer justement cette discipline budgétaire. Mais aujourd'hui, un certain nombre de pays réclament un assouplissement budgétaire du côté de l'Allemagne. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron.
En France, il ne faudrait plus changer les traités. Il ne faudrait d'ailleurs parfois plus baisser la dépense publique. Et on a, chère Angela, je crois que tu le sais maintenant, classiquement une préférence pour la dépense publique plutôt que pour la norme. Eh bien, acceptons de bousculer ces fétiches et n'ayons pas peur de dire oui, pour avancer en Europe, nous devons à un moment être prêts à bousculer les traités et les changer et prendre ce risque démocratique. Oui, je suis prêt à dire que nous devons faire des réformes en profondeur et des transformations pour baisser la dépense publique qui est la seule condition pour avancer dans cette Europe et davantage respecter la norme, construire ces règles communes. Mais de la même façon, en Allemagne, il ne peut pas y avoir un fétichisme perpétuel pour les excédents budgétaires et commerciaux, parce qu'ils sont toujours faits aux dépens de certains autres.
Emmanuel Macron à Aix-la-Chapelle en Allemagne, c'était en mai 2018. Le président français prononce alors ce discours sous les yeux d'Angela Merkel, comme on l'a entendu. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique du fétichisme budgétaire allemand, comme le dit Emmanuel Macron à Pascal Kaufmann?
Écoutez, objectivement, elle est fondée. Je crois qu'on l'a dit ici, on va pas se dédire, elle est objectivement fondée. À l'époque, il fait preuve d'une certaine habileté, puisqu'il fait en même temps une critique, disons, des pratiques habituelles des gouvernements français. Donc c'est assez malin, hein, de montrer qu'on doit pouvoir critiquer l'un des deux gouvernements, mais aussi l'autre. Bon, résultat de tout cela, ben, pas grand-chose. C'est-à-dire que ce type de propos n'a pas mené très loin. Et moi, ce qui me gêne dans cette démarche, c'est que on met plus ou moins tout dans le même sac et tout sur le même plan. Est-ce que vous me donnez quelques minutes pour montrer, par exemple, comment l'attachement allemand aux excédents commerciaux est juste une absurdité? Sous-entendu, il n'y a pas besoin de leur expliquer qu'à côté de ça, on va faire le ménage chez nous. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. L'idée est la suivante, c'est que quand vous décidez, vous, d'acquérir un bien, c'est-à-dire de ne pas épargner, mais d'acquérir un bien durable. Alors, vous choisissez ce que vous voulez, vous acquérez un très beau téléviseur. Vous allez engager une dépense importante, donc ça, pour vous, c'est ça ou de l'épargne, bien ce sera pas de l'épargne, ce sera ça. Donc vous dépensez. Ça, dans votre budget, ça va apparaître comme une ligne de dépense et, toute chose égale par ailleurs, comme une source de déficit. C'est-à-dire, là, vous avez acheté des biens, il faut les régler, etc. Est-ce que c'est un signe de mauvaise gestion? Mais pas forcément. Et ensuite, quand vous avez décidé d'acheter le bien en question, alors vous regardez, est-ce que je le prends, je l'achète coréen ou japonais? Là, on voit apparaître une question de compétitivité. Entre les deux, vous allez choisir celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Très bien. Nos amis allemands refusent de voir que ce qui crée les excédents ou les déficits, c'est d'abord les choix de dépenses ou d'épargne, c'est-à-dire de la macroéconomie. Et ensuite, ils refusent de voir que les problèmes de compétitivité n'apparaissent qu'une fois qu'on a décidé de dépenser. Sous-entendu, c'est pas la compétitivité qui fait les déficits ou les excédents. Bon, vous voyez ce que je veux dire?
Absolument. Et puis, on a pu entendre Angela Merkel dire qu'il n'y avait pas besoin de creuser les déficits puisque de toute façon, la croissance allemande allait être tirée par la consommation intérieure. Donc, avec cette idée aussi de pousser davantage la population à s'endetter plutôt qu'à épargner.
Tout à fait. Ça y est, comme le disait tout à l'heure Michel, ça revient effectivement à faire des jeux de vase communicants entre le financement public, enfin la dépense publique et la dépense privée. Or, elles ne sont pas toujours substituables. Hein. On a rappelé qu'il y avait des éléments de dépense qui ne se feront pas, notamment tout ce qui a un caractère de réseau, d'infrastructure collective, ça ne se fera pas si c'est pas sur des fonds publics. Donc ça a un côté un peu tartuffe que de prétendre ce genre de choses.
Michel Rumi.
Je vais être un peu provocateur, d'une certaine manière. La vision de l'analyse est bonne, hein, je précise, mais je vais être un peu provocateur parce qu'on a une vision française. La vision française, c'est de dire, bon, je suis en mauvaise situation et je vais demander à quelqu'un que j'ai l'habitude de taper, dire, ben, ça serait bien de continuer à me donner de l'argent. Et en face, on dit, mais ok, on va arrêter parce que j'en ai marre de moi de faire des efforts et toi de ne pas faire d'efforts. Donc on voit bien une confrontation de vision, de construction européenne. La construction européenne, ou du moins la zone européenne, eh bien, est au service des objectifs de l'Allemagne, alors que l'Allemagne ne joue pas collectif, d'une certaine manière. Elle défend toujours ses intérêts, et donc, peu importe, on va dire, sa situation, si par hasard, il faut donner de l'argent pour conserver son leadership, mais on va dire sa position au sein de l'Europe et sa compétitivité, son excellence de son économie, elle fera des efforts. Mais si elle n'y voit pas d'inconvénient, si elle n'y voit pas un intérêt, elle fera pas d'efforts.
Ce que vous voulez dire, Michel Rumi, c'est que dans ce cas précis, la relance budgétaire ne bénéficierait pas nécessairement à l'économie allemande, mais bénéficierait peut-être au reste de l'économie européenne. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron demande à l'Allemagne de desserrer les cordons de la bourse.
Tout à fait. Mais le grand problème, c'est quels sont les produits que les autres pays européens sont susceptibles d'être achetés par la population allemande. Je ne crois pas. Donc je crains la grande difficulté, c'est que cette relance puisse bénéficier au reste du monde, le produits asiatiques ou américains. Et donc, finalement, l'Allemagne risque de dire « Ben voilà, je vous ai écouté, puis finalement, vous faites aucun effort. Donc, faites des efforts et en même temps, on va vous y aider. Mais d'abord, faites des efforts. »
Pascal Kaufmann, sur cette question de l'impact sur l'économie allemande d'une éventuelle relance budgétaire et sur l'économie européenne. Qui a intérêt, en réalité, à cette relance budgétaire en Allemagne ?
Alors, en Allemagne, je pense que les Allemands pourront quand même se vendre une partie de leurs biens à eux-mêmes. Et ils ont quand même une compétitivité qui peuvent se tourner vers eux-mêmes. C'est-à-dire, en gros, réduire leurs excédents extérieurs, précisément. Parce que ça veut dire consommer plus entre eux, plus sur leur propre territoire économique. Maintenant, ce qui a été dit est tout à fait vrai. Le problème est un problème à multiples détentes et ça le rend compliqué. Une relance en Allemagne, oui, bon, ça aura certainement un effet favorable sur l'Allemagne. D'où le fait que maintenant qu'ils sont en quasi-récession, c'est peut-être le moment d'agir. Il est bien évident que ça aura aussi un effet sur l'Europe. Et pour d'autres, ça aura un petit côté effet d'aubaine. Hein, et pour nous en particulier, s'ils relancent. Donc, il n'est pas absurde d'essayer de faire des choses un peu coordonnées, mais d'autres sont dans une position plus favorable pour agir. Et alors, ils ne sont quand même pas tout seuls. Les Pays-Bas, par exemple, fournissent un exemple d'un pays qui serait dans une situation assez similaire. Mais globalement, soyons pas naïfs, c'est clair, s'ils relancent, ça nous bénéficiera aussi et ils auront forcément le sentiment que dans cette affaire, on a tiré les marrons du feu. Et enfin, comme ça a été dit, excusez-moi, il y aura aussi un effet, c'est vrai, planétaire. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que le FMI s'en inquiète. Il y aura effectivement, de toute façon, peu ou prou, si on relance à l'échelle européenne, un effet sur le reste du monde, donc des importations européennes accrues.
Alors la relance peut se faire à l'échelle de l'Allemagne ou à l'échelle de l'Union européenne, du budget de l'Union européenne, qui représente aujourd'hui environ 1% du PIB de l'UE. Ce budget devrait augmenter un peu, mais alors évidemment, on est loin d'une relance telle qu'un certain nombre d'économistes peuvent l'appeler, Michel Rumi.
Ben, le grand problème, c'est que nous n'avons pas de budget. Bon, 1%, c'est rien du tout. C'est-à-dire que si un pays est en difficulté, il est obligé de se débrouiller tout seul par des artifices financiers, comme on a pu voir avec la Grèce, etc. Donc, soit on fait des investissements au niveau européen, mais ça nécessite à ce moment-là tout un processus, on va dire, de coopération et de collaboration pour pouvoir faire. Et en même temps, il faudra toujours trouver des bailleurs de fonds. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des eurobonds et qui va être garant de ces eurobonds? Ça veut dire toujours l'Allemagne, et l'Allemagne n'en veut pas, parce qu'elle dit j'en ai marre de financer tout le monde. Donc là aussi, ça pose ce type de problème. À partir de là aussi, donc ce budget européen est à construire, mais ça prend du temps. Et c'est là la difficulté.
Un budget européen à construire ou un budget de la zone euro à construire. La création de ce budget de la zone euro a été actée en juin par Bruno Le Maire et ses homologues européens. Mais c'est un budget qui aurait été pour beaucoup vidé de son contenu. Pascal Kaufmann, pardon, est très loin des ambitions et du projet défendu par Emmanuel Macron depuis 2 ans.
Oui, tout à fait. Parce que, en fait, le problème est moins un problème de contenu, même s'il faut, bien entendu le regarder de près, mais c'est d'abord quand même un problème d'échelle. Et Michel Grimi rappelait à l'instant que le 1% du budget que vous évoquiez dans votre question, le budget européen qui existe, c'est presque dérisoire. Et effectivement, d'un point de vue macroéconomique, c'est dérisoire. Si vous prenez les États-Unis, une comparaison quand même assez pertinente pour nous, Européens, le budget fédéral américain, il est plutôt entre 15 et 20% du PIB. Entre 15 et 20%. Bon, donc vous voyez, l'échelle est radicalement différente. Et alors maintenant, si on revient à ce budget de la zone euro, Monsieur Macron espérait quelque chose qui pourrait être de l'ordre de 2 ou 3%, c'était très ambitieux, mais qui aurait pu être utile, effectivement. Bon, il a obtenu un accord sur quelque chose dont je n'hésite pas à dire que c'est ridicule. On a aujourd'hui sur la table quelque chose, si vous le regardez de près, qui est plus symbolique qu'autre chose. Et en tout cas, je rejoins ce qui a été dit, complètement insuffisant sur le plan macroéconomique. C'est pas avec ça qu'on fera la moindre relance efficace.
Le projet, effectivement, patine. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Michel Rumi, un mot de conclusion peut-être sur cette pensée autour de la relance budgétaire. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'en Europe, c'est une pensée qui gagne en influence et comment peut évoluer, selon vous, le débat autour de cette question de l'orthodoxie budgétaire?
Mais je dirais que tous les pays de la zone euro et de l'Union européenne sont favorables pour une relance, à exception d'un seul, c'est l'Allemagne. Et du côté de l'Allemagne, on n'a pas envie de relancer parce que...
Il y a les Pays-Bas aussi, comme disait
Michel Hoffmann. Oui, non, mais je veux dire, par rapport, eu égard aux 27, je considère déjà que le Royaume-Uni est parti, mais il y a peu de... Le problème de cette relance, c'est qui va payer. Toujours, on arrive toujours à ce problème. La question, c'est là où se posera la question avec Mme Lagarde, de savoir comment va-t-elle gérer, en fait, ce financement, parce que même...
Christine Lagarde qui va remplacer Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne.
Tout à fait, et qui fait que l'Allemagne est peu, on va dire, favorable à ce que la BCE alimente, parce qu'il faut bien vous rendre compte que la BCE a changé complètement d'orientation. Avant, elle était très ordo-libérale, on va dire, très rigoureuse, défense de l'inflation, puis d'un seul coup, elle s'est convertie, on va dire, à la logique anglo-saxonne, où on a fait de l'assouplissement quantitatif, on a sorti des billets, et donc là, ça ne plaît pas à l'Allemagne. Donc, si on dit, maintenant, la BCE va relancer encore, ça risque d'avoir des crispations.
On peut d'ailleurs voir la décision allemande de ne pas avoir un budget excédentaire en réaction aux nouvelles annonces de la BCE de relancer justement ce programme de quantitative easing, Pascal Kaufmann.
Oui, et puis c'est effectivement révélateur de comme on l'a dit précédemment, du fait qu'il y a quand même à certains moments des décalages entre l'Allemagne et le reste de la zone euro. Alors des décalages qui sont pas aussi graves que peuvent l'être d'autres dissensions. La crise des migrants, par exemple, me paraît finalement autrement plus complexe, avec des conséquences immédiates autrement plus lourdes. Mais l'Allemagne est un outlier dans cette zone euro, pour les raisons qu'on a invoquées, et aujourd'hui, elle est campée sur des positions qui, si vous réfléchissez, bloquent le processus. C'est-à-dire, malgré la récession qu'elle connaît. Grand 1, elle veut pas utiliser ses excédents budgétaires, c'est-à-dire en gros les réduire et relancer. Et grand 2, elle veut pas que la BCE continue dans une voie qui est vrai, hétérodoxe, mais le grand mérite de la BCE, c'est d'avoir quand même tenté quelque chose dans une période où personne d'autre ne faisait rien et qui était une période très originale. Et faut-il rappeler que la BCE, dans sa politique un peu hétérodoxe, est en bonne compagnie. Banque d'Angleterre, Fed, Banque du Canada, Banque du Japon. Donc on voit bien que l'Allemagne est dans une position un peu à part. Bon, eh bien, vous voyez pourquoi je ne suis pas très optimiste sur le fait que tout ça se débloque là, dans l'avenir immédiat.
Et puis nous n'en avons pas véritablement parlé, mais il y a évidemment les conséquences de ces choix budgétaires en Allemagne sur les inégalités, sur la société allemande. Ce sera l'objet de notre discussion demain. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver le journal de l'Écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Michelin s'apprête-t-il à fermer 4 usines en France après la diffusion d'un document interne? L'entreprise pourrait faire face à une nouvelle crise de compétitivité.
Oui, en tout cas des problèmes importants dans 4 usines du groupe, dit un document de chez Michelin. Ces usines sont Avallon, Cholet, La Roche-sur-Yon et aussi Cataroux, le site historique de Clermont-Ferrand. Toutes ne produisent pas la même chose, mais toutes sont confrontées soit à l'obsolescence du matériel, soit à la baisse de la demande sur leur type de pneus et plus généralement à la concurrence mondiale. Résultat, plaide Michelin, une différence de coût de fabrication de 25% par exemple entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. En fait, ce document obtenu par Le Monde est bien un benchmarking interne commandé par le nouveau président du groupe et pour la première fois diffusé au syndicat. Le groupe Michelin lui fait encore des bénéfices. C'était 1,27 milliard d'euros en 2018, mais le constructeur pourrait être tenté de prendre les devants, explique Bernard Julien. Il est maître de conférences en économie à l'université de Bordeaux et directeur du GERPISA.
Sur le marché du pignon en général, il y a deux phénomènes. Hein. On sait qu'il y a des parcs européens qui ne croissent plus ou qui ne croissent plus guère. Hein. Donc ça dépend des pays. En France, on a une petite croissance. En Allemagne, on a plutôt un déclin des parcs. Et donc évidemment, le marché du pneu étant indexé sur le parc, on va avoir un marché qui au mieux va être stagnant. Et puis ensuite, on a un effet prix, hein, puisqu'on a des parcs qui vieillissent beaucoup. On arrive vite à des situations où le changement du train de pneu vaut le prix de la voiture, quoi. Et du coup, bah, on a des offres alternatives, hein, qui sont d'ailleurs proposées par Michelin aussi, hein, qui sont des offres chinois, des offres de rechappé, etc. Et par conséquent, il y a quand même une pression sur les prix qui rend presque incontournable la comparaison des coûts salariaux. Il semble bien que sur un site comme celui de La Roche-sur-Yon, bah là on est plutôt sur la justification d'une probable fermeture. Sur les autres sites, il semble que la messe ne soit pas dite et qu'on pourra avoir tantôt des réductions de voilure, tantôt effectivement des pactes où on dira aux salariés, ben, si d'ici X années vous êtes au niveau de productivité, il n'y a pas de raison qu'on ferme. Si ce n'était pas le cas, on devrait réexaminer la question.
Sur 15 usines en France, Xavier Michelin, on avait déjà fermé 9 depuis 2009.
Ah oui, 5500 emplois à l'époque avaient été supprimés. Fin 2018, le groupe avait aussi annoncé la fermeture d'un site de 850 personnes à Dundee, en Écosse. En France, il avait tenté entre-temps de mettre en place ce qu'il appelle des pactes d'avenir avec les salariés pour garantir l'emploi contre des gains de productivité. Cette fois, donc plus de 2000 l'emploi serait menacé, selon la presse. Un comité social et économique a lieu à La Roche-sur-Yon aujourd'hui.
Bref, on passe au bref. Les cours du pétrole et les prix du carburant surveillés de près par le gouvernement français. La suite des attaques en Arabie Saoudite.
Oui, des attaques qui ont coupé la moitié de la production saoudienne, ont fait bondir de 14% les barils de référence Brent et VTI à Londres et New York hier, alors que l'Union française des industries pétrolières a aussi dit hier s'attendre à, je cite, une augmentation de 4 à 5 centimes des prix à la pompe. Le gouvernement réagissait ce matin dans les médias en demandant, je cite Jean-Baptiste Djebbari, de la modération côté saoudien. Le nouveau ministre de l'énergie Abdelaziz Ben Salman doit s'exprimer dans 2 heures.
En France toujours, 33 milliards et 15 ans pour moderniser le réseau électrique.
Oui, là ce sont les prévisions de son gestionnaire RTE pour modernisation, c'est-à-dire la numérisation, mais aussi le doublement de la capacité d'échange avec les pays voisins et le raccordement au parc d'éoliennes offshore sur l'Atlantique. L'investissement annuel est incertain, autour de 2 milliards d'euros par an, en tout cas une augmentation de centaines de millions par rapport au précédent plan pour répondre à la demande future en énergie verte et véhicules électriques. Soit 21 milliards sur 10 ans contre 60 en Allemagne, disait le président du directoire de RTE.
Et enfin, une entaille dans la prééminence du groupe Bolloré en Afrique de l'Ouest.
Et oui, le groupe français prééminent donc sur la logistique africaine avec 17 ports directement gérés vient de perdre celui de Douala au Cameroun face à un concurrent suisse, Terminal Investment Limited, plus petit mais qui a l'ambition de doubler son nombre de terminaux africains d'ici 2020. Le groupe Bolloré Logistique a d'autres concessions au Cameroun, mais le transporteur vient de perdre une présence de 15 ans dans le port le plus important d'Afrique de l'Ouest. Il a aussi saisi la justice contre la procédure de sélection.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.
A list on me, yellow bitch. I'm rich, I'm rockin' roll. The strippers in the strobe playing tricks on me. The stones hitting different. You supposed to be pissed at me? No, they from Tiffany. Keep my name out your mouth like some wisdom teeth.
And you wonder why
I'm not there with you?
I ain't answering my phone in so long.
Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Yeah, cause I got more. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more.
Phone Numbers de Dominique Fike. Merci beaucoup Pascal Kaufmann et Michel Ruimi de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Un grand merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Bordeaux qui ont permis ce duplex. Demain, on parlera donc de la montée des inégalités en Allemagne. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Shut the fuck up. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes?